répliques, le chant du monde, avec Romain Bertrand et Marc Janson. Comme l'écrit Simone Veil, la formation de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études, force m'a été de constater, en lisant le beau livre de Romain Bertrand, Le détail du monde, et celui non moins passionnant écrit par Marc Janson en collaboration avec Charlotte Fauve, botaniste, que mon éducation comporte de graves lacunes. Beaucoup de mots me manquent pour dire les choses et donc pour les voir et y faire attention. J'ai eu souvent recours au dictionnaire lors de ma lecture de ces deux ouvrages, pourtant dépourvus de toute amphigourie. J'ai ainsi appris ou réappris, car j'arrive à l'âge où la mémoire défaille, que les litres et l'aile cornée qui recouvre les ailes membraneuses des coléoptères, que la phalangère est une plante des régions tropicales, que la mangrove est une formation végétale tropicale constituée de forêts de palétuviers, que le forbe est une plante à suc laiteux, acre et caustique, que les breuils sont des taillis ou buissons formés de haies servant de retraite aux animaux. Ou encore qu'il y a des oiseaux répondant au nom de grands grèbes huppés, de fous de bassin, ou de macaremoine, et la liste est loin d'être close. Ce fut donc pour moi une belle leçon de choses et de vocabulaire. Or, mon cas n'est pas isolé. L'école vit depuis 40 ans au rythme des réformes, et le moins qu'on puisse dire est que celles-ci ne remettent pas l'attention au cœur des programmes. Je voudrais donc demander à mes deux invités de nous éclairer sur ce grand paradoxe. L'inquiétude écologique est omniprésente, elle est même à son comble. Et parce que les mots nous font défaut, nous jetons sur le monde un regard inattentif et distrait. Pour quelle raison ? Que nous est-il arrivé, Romain Bertrand ?
Je crois qu'effectivement, si aujourd'hui on peut tirer le constat que un certain nombre de mots nous font défaut pour reprendre langue avec le monde, c'est-à-dire pour d'abord en prendre souci, pour pouvoir par la suite peut-être en prendre soin tant qu'il en est encore temps. Si on peut aujourd'hui dresser ce constat, c'est à la seule condition de se donner une sorte de point imaginaire dans le temps. Et prenons par exemple le sortir du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, à une époque où les arts et les sciences essayent de marcher main dans la main pour dresser des paysages, des formations naturelles de chaque être dans la singularité de son apparition, dans l'instant même où il se donne à connaître, un portrait aussi exact que possible. Pensons par exemple à cette rencontre qui est célèbre, hein, à Iéna en 1793, entre Goethe, Schiller et Humboldt, où donc voilà, science, philosophie, lettres s'assoient littéralement à la même table et parlent, c'est la folle idée de Humboldt, hein, de décrire le monde dans le moindre de ses détails. Et on a comme ça, au sortir du XVIIIe siècle, et encore tout au long du XIXe siècle, et encore un peu au début du XXe siècle, eh bien une langue qui essaye de recueillir dans chacun de ses plis, dans les plis de sa syntaxe comme de son lexique, eh bien les mille présences naturelles qui nous environnent. Et alors, tout cela, effectivement, on a l'impression que ça s'étiole à partir, disons, de la première moitié du XXe siècle. Il y a plein de raisons, probablement, à ça. Il y a peut-être le fait que le souci de l'homme se fait un peu trop présent, d'une certaine manière, dans les années 1930, quand les sciences humaines, eh bien, prennent leur essor. Et donc, c'est l'homme avant tout, quand même, dans ces années-là. Et puis, il y a le fait de la spécialisation académique et savante. On ne peut plus, à partir des années 1950, être tout à la fois, par exemple, comme l'était Goethe, naturaliste, philosophe et homme de lettres. Donc, il y a probablement des phénomènes puissants ou des tendances profondes qui nous éloignent de ce moment-là, qui, voilà, et le rappeler, ça n'est pas s'abîmer dans la déploration. C'est simplement constater que si quelque chose nous fait défaut, c'est qu'à un moment donné, eh bien, nous avons d'une certaine manière choisi d'oublier. C'est une histoire qu'il faut rappeler parce qu'elle est aussi l'histoire d'un chemin que nous avons pris, alors que nous aurions pu continuer à en emprunter un autre.
Oui, je pense qu'il y a aussi une question du rapport d'échelle, c'est-à-dire que si pendant longtemps la focalisation scientifique de la description s'est basée sur l'organisme, l'échelle de l'organisme, il est vrai qu'à partir des années 70-80 du XXe siècle, l'investissement dans la recherche, ce qui a été encouragé à travers des politiques successives de la recherche, ça a été une échelle beaucoup plus réduite, ça a été l'ADN, ça a été l'échelle cellulaire, la compréhension des phénomènes globaux de la génétique, et en encourageant ce genre de science, eh bien, on a aussi découragé ou en quelque sorte vidé de son sens cette étude qui pourtant n'a jamais été aussi importante et essentielle qu'aujourd'hui, puisqu'on oui. a décrit entre 10 et 15% des organismes qui nous entourent. Et finalement, je pense qu'il y a aussi une faute à un moment d'avoir donné priorité à tout ce qui tenait à la cellule et au moléculaire comparativement à une étude beaucoup plus globale des organismes, et c'est quelque chose que l'on paye aujourd'hui. Je pense que ça a provoqué une certaine faille, un paradoxe dans la réflexion contemporaine où on nous parle énormément de conserver la nature en faisant un non-sens total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conserver la nature sans l'identifier et sans la décrire. Il est inconcevable de pouvoir conserver quelque chose qu'on ne nomme pas et qu'on ne connaît pas. Et c'est encore aujourd'hui le grand absent des débats sur la conservation de la nature, c'est la description des organismes, ce qui est pourtant l'étape absolument essentielle pour une conservation efficace, une conservation qui ait du sens.
Alors, pour aller dans votre sens à tous deux, je voudrais citer ici un extrait du livre de Chaim Semprun, Défense et illustration de la novlangue française. Défense et illustration, il s'agit donc d'un livre très ironique, parce que cette novlangue est pour lui une catastrophe, mais justement il dit ceci, que la création d'un certain nombre de néologismes marque l'extension du calcul rationnel à tous les aspects de la vie. Et ces exemples sont très intéressants. Il faut faire l'effort... Pour apprécier les progrès ainsi accomplis, dit Chaim Semprun, il faut faire l'effort de se souvenir qu'on n'a pas, par exemple, toujours connu et mesuré la biodiversité, mais qu'autrefois, un archéolocuteur devait se contenter de parler à ce sujet de l'exubérante prodigalité de la nature et autres clichés du même tonneau. Avec la novlangue, chacun ayant pris conscience, grâce à ce qui la menace, de l'existence de la biosphère, pour se soucier de sa gouvernance, tout comme de biovigilance et de traçabilité. Car ce que nous donne la nature, prise en charge par la science et transformée par la technique, ce ne sont pas des prétextes à effusion lyrique, ce sont des informations à modéliser. Donc le souci dont vous parlez se fait jour, mais dans une langue qui est celle-là même du calcul rationnel, donc de la technique, et effectivement au détriment du regard et de la description. Romain Bertrand.
Oui, et ce qui est frappant aussi dans certains des néologismes que vous avez énoncés, c'est à quel point en fait chacun de ces termes traduit une montée en généralité. Ce sont des termes qui agrègent les diversités ou les présences naturelles dans leur diversité et qui conduisent assez logiquement à des langages du cheptel ou des populations, dont on sait par ailleurs que appliquées aux populations humaines à partir des années 1910-1930, elles ont pu donner aussi les pires politiques. Donc il y a quelque chose d'un langage aussi qui, s'éloignant de la singularité, des particularités, des présences naturelles, qui ne sont pas d'ailleurs seulement animales, végétales ou minérales. Il y a des tas de présences aujourd'hui que nous ne savons plus dire. y compris des présences spirituelles. On a aussi perdu un certain nombre de mots pour dire ça. Eh bien, s'éloignant de ça, du spécifique, et du spécifique qui est toujours articulé à un lieu, c'est-à-dire c'est l'être décrit dans son milieu, dans ses interactions, dans l'instant même où on le considère, eh bien, va en direction de ces mots qui... Alors, là où c'est très important, ces mots qui agrègent, ces mots qui sont des mots du gouvernement par les grands nombres, on pourrait dire, éloignent de l'émotion. Parce qu'on a du mal à pleurer sur des ensembles statistiques. Voilà, qu'il s'agisse d'ailleurs malheureusement d'humains comme d'autres espèces. Eh bien, lorsqu'on en parle en général, on a du mal à se relier à elles et précisément à les considérer.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait, oui. Il y a un terme, je pense, puisqu'on parlait du langage et des usages peut-être plus contemporains, je pense qu'il y a un mot que j'aborde particulièrement, c'est espace vert, où on est vraiment dans cette espèce de généralité globale où le pâturin, le pissenlit, le lotier, tout a disparu et on est dans cette espèce d'immense généralité qui n'a absolument aucun sens puisque il est hors de question d'imaginer qu'un espace aussi grand soit-il ne puisse se composer que d'un seul et même élément composant. Et je trouve que ça parle assez bien de notre acception, notre relation contemporaine à ce qu'est le vivant végétal, en tout cas pour ma part, puisque c'est là que...
Est-ce que vous diriez donc que le souci écologique est lui-même perverti ou corrompu par cette langue ? La langue dans laquelle il s'exprime, la biodiversité, les écosystèmes et les chiffres, les statistiques dont nous sommes accablés et d'ailleurs qui ont quelque chose d'accablant. Est-ce que vous iriez jusqu'à ce diagnostic, Romain Bertrand ?
Alors, c'est pas en tout cas le diagnostic que l'historien peut porter, qui n'a pas finalement à juger du monde contemporain. Ce que je constate, moi, à titre personnel, c'est que j'appartiens à cette génération qui d'abord a longtemps cru, née dans les années 1970, que les choses allaient mieux. Voilà, qu'on utilisait moins de pesticides et d'engrais chimiques, que précisément le souci de la nature progressait. Et puis qui a découvert eh bien un jour que voilà 60% des oiseaux de nos campagnes ont disparu ou sont en voie d'extinction. Et on s'en rend compte ça par des petites choses. Et on peut comme ça vous asséner de grands chiffres, mais lorsque vous roulez en voiture l'été et que votre vitre de voiture reste propre, alors qu'avant, évidemment, des myriades d'insectes vous obligeaient à la nettoyer régulièrement, lorsque vous allez vous promener dans la campagne que vous ne voyez plus, de martres, voilà, les dernières pigrièches se sont éteintes récemment, c'est là où on s'en rend compte. Donc effectivement, les chiffres alertent d'une certaine manière, mais ce qui crée le lien émotif ou émotionnel à cette alerte, eh bien, c'est le constat quotidien que chacun peut faire.
Mais justement, vous faites, Romain Bertrand, dans votre livre, un peu le procès des romantiques, dont vous dites qu'ils ont tendance enfin, à répandre leur moi dans la nature, à badigeonner les paysages de leur sentimentalisme criard. Ils n'entendent battre dans l'univers que leur propre pouls, dites-vous, et vous en prenez même à Chateaubriand. Qu'entend Chateaubriand quand il écoute le chant de la grive musicienne, un son magique qui le transporte subitement dans le passé, c'est-à-dire à Combourg. Donc, il revient à lui-même. Et là, je vais quand même vous opposer un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe, parce que il me semble que si la faculté d'attention pouvait redevenir le centre des études, alors cet extrait serait étudié et on demanderait même aux élèves de l'apprendre par cœur. C'est-à-dire le jour où ils font, ils disent qu'on doit faire la grève des cours pour faire nos devoirs quand vous ferez les vôtres, eh bien, ils vont en classe, ils étudient ce texte, et c'est un texte intéressant parce que il couvre le champ de l'entomologie, de la zoologie et de la botanique. Je le cite. « Le printemps en Bretagne est plus doux qu'aux environs de Paris et fleurit 3 semaines plus tôt. Les 5 oiseaux qu'il annonce, l'hirondelle, le loriot, le coucou, la caille et le rossignol, arrivent avec des brises qui hébergent dans les golfes de la péninsule armoricaine. La terre se couvre de marguerites, de pensées, de jonquilles, de narcisses, d'hyacinthes, de renoncules, d'anémones, comme les espaces abandonnés qui environnent Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Des clairières se panachent d'élégantes et hautes fougères. Des champs de genêts et d'ajoncs resplendissent de leurs fleurs qu'on prendrait pour des papillons d'or. Les haies, au long desquelles abondent la fraise, la framboise et la violette, sont décorées d'aubépines, de chèvrefeuilles, de ronces dont les rejets bruns et courbés portent des feuilles et des fruits magnifiques. Tout fourmille d'abeilles et d'oiseaux. Les essaims et les nids arrêtent les enfants à chaque pas. Dans certains abris, le myrte et le laurier rose croissent en pleine terre comme en Grèce. La figue mûrit comme en Provence. Chaque pommier avec ses fleurs carminées ressemble à un gros bouquet de fiancés de village. Bien, on étudierait cela, on saurait mieux que par les chiffres ce qui est en train de disparaître. Vous êtes d'accord,
Marc-Lancel ? Oui, c'est indéniable, c'est indéniable. Il y a même au-delà de ça un rapport, une sorte d'incarnation du vivant qui ne se fait jour que lorsque l'on porte à son degré le plus ultime la description. C'est-à-dire que même le botaniste qui voit les plantes telles que Chateaubriand les décrit, lorsque l'on va s'arrêter et que l'on va se plonger dans la corolle, décrire les anthères plumeux, compter le nombre de loges du carpel, on a véritablement une vision qui naît et qui demeure. Et on ne voit plus jamais le vivant de la même façon. Et je pense que cette matérialité, cette réalité physique du vivant et du végétal est absolument incontournable pour comprendre ce qu'est le vivant et définir une écologie qui soit beaucoup plus basée sur cette observation qui nous manque que sur de la statistique ou du chiffre. Une sorte de vivant véritablement incarné et non pas limité ou symbolisé à un chiffre ou à une statistique.
Alors, ça vous réconcilie avec Chateaubriand, Romain Bertrand ?
Alors, ça n'est pas moi qui fais un mauvais procès à Chateaubriand, c'est Humboldt, Alexandre de Humboldt.
Ah oui, carrément.
C'est Humboldt qui, dans ses considérations littéraires sur la peinture, la description de paysage, dit « ma manière à moi est très différente de celle de Chateaubriand ». Alors, il pense que Chateaubriand est trop empesé d'une certaine façon. Et en fait, je suis dans le sillage de cette remarque critique de Humboldt pour marquer précisément... Alors c'est ce terme romantisme qui est évidemment d'une ambiguïté absolue, puisque entre le premier romantisme allemand, le romantisme français, le romantisme britannique, tout cela est très différent en vérité. Mais il y a un vrai débat dans ces années-là que Humboldt éprouve. Il y a un vrai débat sur précisément ce qu'est la description des paysages chez des gens comme Shelley, par exemple, où il y a effectivement une projection de l'état émotionnel. Alors comme Humboldt, lui, veut finalement tenir la distance ou tenir la part égale entre la description littéraire et le souci d'exactitude scientifique, eh bien voilà le reproche qu'il adresse à Chateaubriand. Et ça c'est quand même aussi très intéressant, c'est-à-dire que ce que cherchent des gens comme Humboldt et un certain nombre de grands naturalistes du 19e siècle, à travers leur usage si particulier de la langue, de ses ressources dans la description de la nature, c'est la précision, c'est l'exactitude, c'est un souci d'exactitude. Donc voilà, c'est un mauvais procès, mais c'est peut-être un bon reproche.
Oui, mais un reproche qui ne vaut pas pour
non,
le texte.
Non, qui ne vaut pas, je suis assez d'accord.
Pour le texte que je vous ai lu. Et puis, il y a quand même dans le romantisme une grande méditation sur les dégâts de la raison calculante à partir justement de la révolution industrielle. Cela étant, je retiens aussi, et je crois que vous le citez, cette phrase de Jacotet, l'attachement à soi augmente l'opacité de la vie. Il y a des poètes, parmi les romantiques et après les romantiques, qui précisément ne veulent pas que leur moi leur fasse oublier la nature ou fasse de la nature un simple prétexte à l'étalage de leurs émotions. Nous sommes d'accord. Mais là, je vous dirais en venir à un des thèmes de votre livre, Romain Bertrand, qu'on retrouve aussi dans Botanique de Marc Janson. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a dans cette Europe du 19e siècle, curieuse des choses, des détails, une sorte de clivage qui se fait entre le parti de l'entaille et le parti de la surface. Une entaille dans les choses et qui peut aller très loin, parce que vous dites que la connaissance a eu, et a peut-être encore, partie liée avec le crime. Et je voudrais que vous élaboriez un peu cette thèse, Romain Bertrand.
Oui, ce qui, d'une certaine manière, une des lignes de base ou un des fils rouges qui organise un certain nombre de mes lectures et des réflexions contenues dans cet ouvrage, c'est-à-dire cette tension entre l'entaille, c'est-à-dire d'une certaine manière l'affirmation selon laquelle on ne connaît vraiment et on ne comprend vraiment qu'à partir du moment où on va voir en profondeur, en incisant et par définition donc en ôtant la vie à ce que l'on essaye, non plus d'ailleurs de considérer, mais de contempler. Et de l'autre côté, il y a un très ancien savoir, un savoir qui... Voilà, donc qui jette ses pleins feux à la Renaissance, hein, à travers ses modes de connaissance analogiques ou analogistes du monde, qui est un savoir des surfaces, c'est-à-dire qui essaye de déduire un certain nombre des lois qui gouvernent les êtres naturels simplement de l'observation de leur comportement de surface et de la manière dont leur propre surface, leur carapace, leurs ailes, se déploient dans un autre horizon de surface, qui sont celles du vivant végétal, par exemple. C'est un très très vieux savoir, c'est un savoir qui est progressivement disqualifié, alors même qu'il permet à un certain nombre de naturalistes, comme Alfred Russel Wallace, hein, dont j'essaye de traiter un peu, eh bien précisément de découvrir un certain nombre des lois de la théorie de l'évolution. Hein, c'est-à-dire, Wallace a inféré de la couleur, de la disposition des ocelles sur les carapaces de certains types de scarabées, eh bien, un certain nombre des lois de l'évolution adaptative. Hein. Et donc, on voit au XIXe siècle, d'une certaine façon, s'affronter, peut-être pour la dernière fois, ce très ancien savoir des surfaces, et puis une pratique de l'entaille, ou un savoir par incision, alors, dont il ne faut pas, évidemment, se priver totalement. L'idée n'est pas de renoncer à la chirurgie réparatrice, oui, au bistouri, au vaccin, etc. Pas du tout. L'idée est de dire que on est peut-être allé trop loin dans l'exclusif donné à cette forme-là de connaissance, et que précisément retrouver le chemin ou le moyen d'une connaissance sensible du monde, c'est peut-être aussi en revenir un peu, hein, un peu plus souvent ou un peu plus longtemps, à la surface des choses.
Oui, non, parce que vous dites que la passion de la nature impliquait son martyre, et que pour certains, il n'y a pas de contradiction entre l'émerveillement et le meurtre, entomologiste ou zoologue. C'est intéressant parce que je retrouve dans votre livre, Marc Janson, un peu la même thématique. Vous dites, vous êtes directeur de l'herbier de Jardin des Plantes. Et qu'est-ce qu'on fait dans les herbiers? On sèche les plantes, et les plantes deviennent des momies végétales. Et surtout, vous avez cette phrase, cette comparaison entre le jardinier et le botaniste. Le botaniste n'est pas le jardinier. C'est le jardinier qui accompagne le développement des plantes. Il les veille, il les maintient en vie. À l'inverse, le botaniste coupe les plantes, il les observe dans la mort pour mieux les situer à l'intérieur du vivant. Donc, il est du côté de l'entaille, si j'ai bien compris l'opposition de Romain.
Tout à fait. Je pense qu'il faut aussi ajouter à cette discussion une opposition entre le monde animal et le monde végétal. C'est-à-dire que l'entaille dans le monde animal va avoir des conséquences qui, la plupart du temps, sont absolument funestes à l'échelle de l'individu, ce qui pose des questions aujourd'hui par rapport à certaines considérations de la sensibilité animale, etc. Le végétal est beaucoup plus propice à la combinaison des deux, de la surface et de l'entaille, parce que, par sa nature même, c'est un être qui supporte, dans la plupart des cas, un prélèvement qui va être fait sur son organisme et qui pourra très largement outrepasser, remplacer, continuer à vivre. Donc je pense qu'il y a vraiment une approche différente entre, encore une fois, entre le monde animal et le monde végétal. Et là où je ne suis peut-être pas totalement d'accord avec Romain Bertrand, c'est que aujourd'hui encore, il est absolument essentiel de comprendre la surface pour permettre l'identification, et que cette identification est basée sur un processus scientifique tout à fait standardisé et universel. C'est cette notion de typification dont vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Et cette notion de type, elle est fondamentale, puisque c'est en quelque sorte comment, lorsque l'on décrit une espèce nouvelle, d'ailleurs de plante ou d'animal ou de minéral, cette notion de type, elle est propre et générale à l'histoire naturelle, on va devoir associer à ce nom que l'on crée et qui n'a par définition aucune existence matérielle, physique, comment est-ce qu'on va devoir associer ce nom nouveau que l'on vient de créer aux organismes vivants qu'ils décrit, sur lesquels il s'applique. Et donc, pour trouver une sorte de médiateur entre ce nom éthéré, sans existence matérielle, et les plantes, dans le cas de la botanique, qu'il va décrire, eh bien, il y a cette notion de type, c'est-à-dire ce prélèvement qui est fait sur le végétal, sur lequel le scientifique va se baser pour en faire la description. Et ce matériel type qui va être cité, précisé dans la description de l'espèce nouvelle, va devenir... grâce à ce statut de type, la référence internationale, que l'on soit agriculteur, généticien, pharmacien, lorsque l'on va travailler sur une espèce dont on veut vérifier, s'assurer de la bonne identification, eh bien on va devoir revenir à ce spécimen type. Et par définition, si ce type était un organisme vivant, si c'était une plante dans la forêt ou dans un jardin, eh bien il pourrait lui arriver 1000 péripéties, la mort, la maladie. Le fait de couper et de sécher, dans le cas de la botanique, ou de naturaliser dans le cas de la zoologie, ces spécimens, va leur permettre d'être accessibles et surtout de demeurer dans le temps si les conditions de conservation, bien sûr, de ces spécimens sont adéquates. Et c'est ce qui fait véritablement la force, l'intérêt et ce côté indispensable de la mise à mort dans le cas des animaux, ou en tout cas du prélèvement dans le cas du végétal. C'est ce qui justifie scientifiquement ce processus qui effectivement peut poser des questions. Je ne dis pas que dans les prélèvements et dans les mises en collection, l'entrée en collection des spécimens, il n'y a pas eu à une époque, par des pratiques de centurie, par des pratiques de collecte massive pour la distribution à un réseau donné d'amateurs, etc., des pressions excessives qui ont été portées sur les populations sauvages. Mais en tout cas, aujourd'hui, les méthodes ont changé. Et je pense que dans le monde des insectes, par exemple, pour identifier précisément un insecte, parce que la surface parfois est trompeuse et cache des intériorités différentes, la pratique de l'entaille et l'observation de ce qu'on appelle les génitalia est absolument essentielle pour pouvoir porter un nom précis sur l'insecte en question. Donc je comprends cette interrogation et je la partage, mais au moment d'identifier scientifiquement une espèce, hélas, cette entaille est encore de rigueur et je pense qu'elle est indispensable.
Qu'est-ce que vous répondez à cela, Romain Bertrand ?
Oui, non, il s'agit absolument pas dans ce livre de faire le procès de la pratique scientifique, mais il s'agit d'une certaine manière de pousser l'expérience de penser au plus loin. Pourquoi décrivons-nous scientifiquement de cette façon-là ? Et là, l'argument ultime de justification, c'est de dire qu'il faut continuer à décrire et à connaître, y compris évidemment par les techniques de l'incision, pour préserver et donc pour réparer un tort causé par l'humain au monde naturel. Et l'expérience de pensée consiste à se dire, n'y a-t-il pas, ou n'y a-t-il pas eu, d'autres façons de se relier, pour le connaître, au monde naturel ? Et la réponse est que si. La réponse est qu'il a toujours existé, donc tout au long de cette histoire, à la fois de la médecine et de l'histoire naturelle, au 15e, au 16e, au 17e siècle, qui pratiquaient l'incision précisément, la description de ce que vous appelez les intériorités, ou en tout cas les intérieurs physiologiques, une tradition de la description en surface et de la description de l'être naturel vivant dans son milieu. Et c'est aussi pousser cette expérience de pensée à la limite. Moi, lorsque il m'arrive de me rendre à Bornéo pour des recherches en cours sur un livre, il y a là-bas, par exemple, des gens qu'on appelle les Ibanes, et qui ont plus de 30 termes, plus de 30 expressions différentes pour qualifier un épi de riz aux différents stades de sa croissance et de sa maturation. La cambrure de la tige, évidemment, le vert des feuilles, etc. C'est un savoir descriptif qu'ils appliquent aussi aux insectes, par exemple, qu'ils appliquent aux animaux, sans pour autant en être jamais passé par cette relation d'incision ou de prélèvement létal systématique. Donc je dirais que c'est plus de l'ordre de l'expérience de pensée, parce que ça nous amène à comprendre aussi, et c'est ça le rôle critique de l'historien, que nous avons emprunté certains chemins de connaissance qui n'étaient pas les seuls existants. Et de fait, si aujourd'hui, d'une certaine manière, l'entaille continue à être nécessaire, c'est précisément pour réparer un tort que lui a causé une tradition de pensée qui n'était qu'une lignée parmi d'autres de celle auxquelles nous aurions pu nous raccorder.
Et en même temps, ça nous a permis d'aller loin, et peut-être plus loin dans la connaissance que d'autres formes, d'autres manières d'aborder le réel. Oui. Ça, on est obligé de le reconnaître.
Oui, plus loin dans la connaissance.
Elle a porté ses fruits.
Elle a porté ses fruits. Elle a, oui, on le sait, il y a cette ambiguïté intrinsèque de tout progrès des connaissances scientifiques et technologiques. C'est-à-dire que oui, elles apportent plus de savoir. Et tout le temps, elles apportent aussi plus de pouvoir, de prise sur les choses. Voilà. Oui. Mais c'est pas une réflexion que, enfin, il s'agit pas de faire la critique des praticiens de sciences naturelles. C'est tous les savoirs, y compris les savoirs des sciences humaines, dont moi-même je suis un praticien, doivent se rendre compte qu'il y a comme ça des parts obscures dans leur généalogie. Voilà. Qu'on a aussi toujours un peu partie liée avec la mort. Et pour l'historien, c'est même fréquentation quotidienne des morts.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette question qui est complexe, évidemment, et qui a aussi attrait à comment on a imposé, finalement, cette pensée scientifique contemporaine, par l'histoire humaine que l'on connaît tous au fil des siècles passés. Mais la force qu'a eu ce système européen, puisqu'évidemment c'est en Europe qu'il est né, on peut rendre hommage à Linné, etc., toute cette pensée classificatoire et cette façon de dénommer le vivant, a eu l'immense avantage d'avoir cette approche universelle que n'ont pas les classifications plus vernaculaires que l'on peut trouver partout dans le monde. Et c'est vrai que c'est ça qui a fait sa force et sa pertinence aujourd'hui. Par contre, ça s'est aussi accompagné, et je crois qu'il y a une pensée contemporaine, et je crois que vous y êtes sensible, Romain Bertrand, sur ce que l'on a fait, enfin tous ces emprunts qui ont été faits à ces connaissances vernaculaires. On parle de Francis Allais, ce botaniste incroyable qui a développé avec Oldeman une nouvelle approche de la caractérisation du végétal en passant par des systèmes qu'on a appelés des systèmes architecturaux. Et ça, c'est une pensée que Francis Allais a eue en Afrique, dans la savane, où il demandait aux villageois, en Afrique de l'Ouest, je crois, quel est cet arbre que l'on voit au loin, et qui était capable de lui formuler une réponse tout à fait évidente. Et en disant, mais comment vous faites? Vous n'avez pas les fleurs, vous ne pouvez pas voir les feuilles de là où vous êtes, et pourtant vous me dites que c'est un capoquier, un baobab. Et oui, parce que quand on voit sa structure, son architecture, sa silhouette, on sait que c'est tel arbre et pas tel autre. Donc il y a mille exemples comme ça d'emprunts qui ont été faits de sciences dites universelles, européennes, à ces classifications vernaculaires. Et au-delà de ça, on a aussi complètement oublié et laissé de côté tous ces savoirs traditionnels sur lesquels les botanistes, les zoologistes, les explorateurs se sont basés, vous le dites dans l'ouvrage, pour appréhender ces forêts. Parce que c'est pas parce qu'on est botaniste ou explorateur européen que l'on peut identifier par définition ce que l'on ne connaît pas. Donc il y a eu cette espèce de mélange, de dépendance entre des savoirs locaux et les savoirs, disons, européens universalistes, qui sont absolument essentiels et qu'on a eu tendance à vraiment laisser de côté ces derniers siècles.
Alors, mais de quel côté, justement, situeriez-vous une personnalité dont vous parlez, Romain Bertrand, Ernst Haeckel? On lui doit l'invention du terme d'écologie pour désigner la science des relations d'un organisme avec son environnement. Et parce que je lis cette phrase extraordinaire que vous citez également, je suis d'une étrange nature. Je suis d'un côté un pur idéaliste, de l'autre, je suis habité d'un rare réalisme sensuel et émotif à l'extrême. À la vue d'un magnifique coucher de soleil, d'une plante des plus élégantes, d'un charmant siphonophore, là, et j'ai immédiatement besoin d'un dico, ou d'une jolie fille, j'éprouve un ravissement intérieur dont peu de gens sont capables de faire l'expérience. Là, c'est un émerveillement qui n'est pas du tout lié au meurtre. Alors, Haeckel serait-il du côté, justement, du détail, de la surface, de l'attention, du regard?
Oui, alors Haeckel, c'est un cas complexe, et pour cette raison-là...
C'était 1860, hein, c'est ça?
Intéressant, c'est le début des travaux, 1860, mais ça court jusque dans la première décennie du XXe siècle. Haeckel, d'abord, c'est un darwinien, à la charnière de la première et de la deuxième génération, c'est-à-dire ces gens qui pensent que la théorie du maître n'a pas encore assez largement gagné les larges masses. Et donc tout le travail de Haeckel, la raison pour laquelle on le connaît, c'est-à-dire ces magnifiques planches polychromes d'organismes marins qui sont republiés aujourd'hui par des éditeurs d'art, eh bien c'est un travail de pédagogie pour diffuser la pensée du maître. Alors Haeckel, oui, c'est l'attention au détail, mais attention, précisément, c'est l'attention au détail de l'être unique. Hein, et les petites créatures marines, hein, les radiolaires, etc., que Haeckel dessine, eh bien, sont toujours reproduits, abstraits de leur environnement marin, de leur environnement récifal. Et donc, on passe du détail au sens de l'individu, au détail au sens du type, hein, c'est-à-dire d'un espèce de type universel. Et ça, ça peut avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, des conséquences parfois un peu dangereuses, y compris politiquement, quand on passe de la considération de l'individu à la pensée par population ou par cheptel, parce qu'il y a la face obscure de Haeckel. Et la face obscure de Haeckel, c'est qu'il était un militant pan-germaniste, très sensible à l'argument de l'extension de l'ère vitale de l'ancienne Prusse, et c'est quelqu'un qui va donner malheureusement le langage de l'évolution, ou apporter le langage de l'évolution à la question de la théorie des races. Voilà. Mmh. Donc chez Haeckel, vous avez précisément, finalement, et donc produire un racisme biologique, hein, avec l'idée qu'évidemment les Indo-Européens, les races aryennes sont au sommet, et puis tout en bas, l'homme africain, etc. C'est ça aussi Ernst Haeckel. Et c'est d'ailleurs un problème aujourd'hui quand on mobilise uniquement pour des considérations esthétiques l'œuvre de Haeckel. Il ne faut jamais oublier cette part obscure-là, et qui pour moi est déjà décelable dans la façon dont pour lui l'individu n'est plus une singularité, mais est déjà un type.
Mmh. Voilà. D'un autre côté, vous dites qu'il a fait paraître, à la fin du XIXe siècle, au tout début du XXe, une série d'opuscules intitulée « Formes artistiques de la nature » et que ces formes artistiques de la nature ont eu une influence sur l'architecture. C'est-à-dire, ces siphonophores, on y revient, sont devenus l'un des patrons des volutes et des arabesques de l'art nouveau. Donc là, nous sommes quand même très loin du racisme biologique. Mais l'esthétique de Haeckel a joué un rôle dans la création picturale ou architecturale.
Oui, c'est Romain Bertrand. Il y a par exemple cet exemple de la porte d'entrée de l'exposition universelle de Paris en 1900, une porte d'entrée majestueuse, monumentale, qui est en fait directement inspirée d'un des dessins de radiolaires, de micro-organismes marins de Haeckel. Donc il a eu, et d'ailleurs c'est ça, jusqu'à aujourd'hui finalement, on fait surtout une histoire esthétique de Haeckel, mais c'est aussi parfois une manière de ne pas engager une histoire politique de sa pensée. Il faut toujours faire attention avec la fascination qui peut naître de la contemplation de la partie artistique de l'œuvre.
Mmh. Bon, alors nous voici alertés, et je voudrais maintenant en venir à une question d'actualité. Le Brésil. Mmh. La forêt amazonienne est en train de flamber. Et vous parlez du Brésil dans votre livre, Marc Janson. Vous dites, au Brésil, les plantations d'eucalyptus et leurs alignements monospécifiques ne sont pas la forêt, mais son fantôme blafard et silencieux, un ectoplasme d'écosystème, c'est cela l'enfer vert. Donc ça, c'est la forêt, non pas la forêt amazonienne, c'est la forêt à l'orée des villes, c'est ça?
Ou même parfois en s'éloignant assez loin. C'est tout ce problème du manque de mots pour décrire le vivant. C'est que on appellera ça, si on le voit d'en haut, une forêt. Si on le voit d'en bas, une forêt. Si on n'est pas capable de reconnaître l'eucalyptus et de se dire mais un eucalyptus n'a rien à faire en Amérique puisque ça n'est pas du tout son aire naturelle d'occurrence.
Et pourquoi ils sont là alors les eucalyptus?
Parce qu'ils ont été plantés, parce que ce sont des arbres qui poussent très vite et qui produisent un bois de feu ou un bois de menuiserie qui est assez utile. Le revers de la médaille, bien sûr, quand on connaît les plantes et qu'on porte attention à leurs spécificités, on sait que ce sont des plantes qui posent problème parce qu'elles détruisent les sols, elles les épuisent. Et donc l'Amazonie brûle, oui, mais le bassin du Congo brûle, la forêt malgache brûle, les grandes forêts d'Asie du Sud-Est tropicale brûlent peut-être plus encore que l'Amazonie. C'est une sorte de fantasme, je crois, l'Amazonie incarne pour les Européens depuis très longtemps une sorte de forêt bienveillante, de forêt absolument sauvage. On sait que ce mythe de la forêt absolument vierge est battu en brèche aujourd'hui par des études qui nous montrent qu'elles ont été cultivées par les populations qui les habitent depuis des millénaires. Et il y a encore dans notre conception du monde cette espèce de partie très particulière du monde qui est l'Amazonie et qui est le réservoir de tous nos fantasmes et de tous nos espoirs sur la capture du CO2, la libération de l'oxygène. Ça n'est pas faux. Bien sûr qu'une grande forêt, qu'un grand bassin de forêt tropicale humide comme l'Amazonie est un réservoir de biodiversité. Mais premièrement, il a été abondamment détruit par d'autres raisons que le feu, par les plantations, par l'agriculture, dont les Européens d'ailleurs raffolent et importent massivement les produits. Et de la même façon, le bassin du Congo ou les grands bassins forestiers d'Asie du Sud-Est sont tout autant, voire plus, regorgeant d'une biodiversité et assurant les mêmes services écologiques par rapport à l'atmosphère que nous respirons ou par rapport au cycle de l'eau.
Oui, mais d'abord, les eucalyptus, il y en a aussi en la forêt amazonienne ou c'est autre chose?
Alors, il y a des eucalyptus absolument partout dans les zones tropicales et subtropicales, puisque c'est un groupe qui est vraiment originaire essentiellement d'Australie et de Tasmanie, qui se développe naturellement dans des conditions écologiques très variées, de climats vraiment tropicaux à des climats beaucoup plus subtropicaux. Et donc, c'est des arbres qui ont été, à l'image de la colonisation européenne, installés, introduits dans des jardins d'acclimatation dans un premier temps et ensuite à des échelles industrielles dans toutes les zones du monde.
Mais alors, d'un autre côté, vous dites, il n'y a pas que l'Amazonie. C'est un peu un mythe, un fantasme, etc. Il y a le Congo et d'autres forêts africaines. Mais pourquoi toutes ces forêts brûlent-elles? Qu'est-ce qui arrive?
Pourquoi toutes ces forêts brûlent-elles? Mais c'est parce que la démographie humaine, les besoins matériels, énergétiques, on pourrait aussi citer, je crois, vous ouvriez l'émission en posant la question « Que nous est-il arrivé? Pourquoi ne portons plus ce regard, cette envie de description du monde qui nous entoure ?» Je pense que la description, ça implique une relation privilégiée, un instant qui dure, en quelque sorte, par rapport à ce qui nous entoure, c'est-à-dire capter notre attention et faire en sorte que cette attention dure suffisamment longtemps pour pouvoir décrire le monde, et que malheureusement, aujourd'hui, on vit sous la dictature de l'instantanéité, des messages que l'on s'envoie, de ce que le téléphone portable vient de nous dire. Et le lien avec le téléphone portable, on peut le faire sur l'attention, cette façon qu'on a de croire tout capter en allant au musée et en prenant une photo et en s'en allant tout de suite, ou en prenant une photo de telle fleur et en s'en allant tout de suite. Et de la même façon, c'est tous ces besoins énergétiques. Donc effectivement, les terres rares se trouvent pour beaucoup dans les pays tropicaux. Les besoins en terre, en réservoir de terre pour nourrir cette humanité qui ne fait qu'augmenter, se font au détriment de ces zones forestières qui, pour la plupart des gens, ont un rôle écologique absolument crucial, mais qui leur échappe totalement. Et donc, c'est ça qui explique. Et puis, il y a les ressources économiques propres à la forêt. Souvent, Francis Allais, pour revenir à Francis Allais, utilise, pour parler des forêts tropicales, la métaphore d'une grande table en bois de qualité très médiocre, mais couverte des vaisselles les plus prestigieuses, les plus riches, les plus rares. Et c'est vrai que souvent, cette valeur du bois passe bien avant la valeur de toute la biochimie qu'on va trouver dans la canopée des forêts, c'est-à-dire cette couche de quelques dizaines de centimètres qui se trouve au sommet de ces arbres en interaction directe avec le soleil, qui sont de véritables usines du vivant, qui sont ces réservoirs de molécules qui peut-être nous sauveront, nous soigneront, nous nourriront demain. Et il y a cette espèce de grande incompréhension, d'extractivisme absolument massif.
Mais est-ce qu'on pourrait dire, je vous pose la question les deux, que la déforestation qui a repris de plus belle après l'élection de Bolsonaro à la présidence de la République brésilienne, est-ce que la déforestation expose les forêts au feu, ou est-ce que ça n'a pas de rapport?
Alors, tout est lié, parce qu'en fait, l'exploitation de la forêt passe par l'ouverture d'une piste. L'ouverture de la piste, en général, entraîne des ouvertures de pistes secondaires, et pour se frayer un chemin ou pour s'accaparer les terres, les paysans locaux brûlent la forêt. Donc c'est un système qui s'auto-nourrit, en quelque sorte. On brûle la forêt pour avoir accès aux terres, et puis le feu nous échappe et va détruire une forêt que peut-être on n'avait pas l'intention de détruire. Et puis surtout, les microclimats s'en trouvent bouleversés. C'est-à-dire que la forêt génère la pluie, mais on le sait aujourd'hui, appelle aussi la pluie et crée des phénomènes de tombée de l'eau. Et donc, moins vous avez de forêt, plus les climats vont s'assécher sur des périodes plus longues. Et donc, plus le risque de feu est aussi élevé.
Vous avez une remarque à faire sur cette question de la forêt amazonienne, Romain Bertrand?
Non, sur l'Amazonie, non. Après, voilà, à Bornéo, c'est effectivement, oui. c'est la même chose, et peut-être pire d'ailleurs. Hein.
Absolument. Pourquoi pire?
Parce que le taux de déforestation est galopant et n'a cessé d'augmenter à Bornéo ces 10 dernières années, bon, 10, 15, etc. Donc ça n'est que la monotonie des champs de palmiers à huile. Hein, l'huile de palme, c'est là, c'est vraiment là, quoi. C'est des petits bouts de forêt grignotés, arrachés les uns après les autres. Et vraiment, la forêt, entre guillemets, enfin même le terme est impropre de palmiers à huile, c'est le règne mortifère de la répétition, la monotonie, sur des centaines de kilomètres, voilà, ces forêts qui n'en sont plus, sous lesquelles plus rien ne vit.
Et pour reprendre une question autour de laquelle on échangeait tout à l'heure, si on devait peut-être pointer une limite de la pensée écologique contemporaine, je pense que là où il y a un vrai manque, c'est justement cette insistance que l'on devrait tous avoir, ce sentiment d'urgence par rapport à toute cette biodiversité qui brûle littéralement, sans même avoir été décrite. C'est-à-dire que ce temps du monde fini n'est absolument pas à l'heure du jour, puisque on a décrit 10 à 15% du vivant. Et donc, il y aurait, à mon avis, si on veut vraiment être écologiste, tout à fait matière à suivre le message de quelqu'un comme Edward Wilson, grand scientifique qui a popularisé le terme de biodiversité, qui nous dit, mais il faudrait massivement investir dans la description du vivant, puisque jamais il n'a été aussi menacé qu'aujourd'hui, et pourtant, on en a une connaissance qu'extrêmement lacunaire. Et donc, il y a, je crois, là, un manque, c'est-à-dire que cette insistance sur la conservation ne tient pas tant qu'on ne l'accompagne pas en priorité d'un immense élan sur la description.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que l'urgence existe, on nous la rappelle tous les jours aux actualités, mais elle s'exprime par les nombres, par les statistiques, par les chiffres, et c'est elle qui dispense justement de la description. Et c'est pour ça que j'ai pointé cette grande idée de Greta Thunberg. Nous ferons nos devoirs quand vous ferez les vôtres. La grève des cours. Les enfants, ils peuvent pas apprendre. Ils vivent dans les villes. Donc c'est à l'école que l'art de la description peut leur être transmis. Mais tout d'un coup, c'est comme si l'urgence mettait l'école et la culture en vacances. Maintenant, non, on a pas de temps à perdre avec l'éducation de la sensibilité, avec l'enrichissement du vocabulaire. On dit aux enfants, pratiquez le tri sélectif et faites en sorte que vos parents vous obéissent, puisque maintenant, la prise de conscience se fait un peu à l'envers. Donc, c'est le grand paradoxe de notre situation. Vous dites, l'urgence écologique, c'est réintroduire la description pour savoir ce qu'on perd, et on vous répond par une urgence écologique formulée seulement en termes statistiques, arithmétiques, etc. Romain Bertrand.
Oui, le drame, c'est qu'il y a une contradiction interne dans cette expression, l'urgence de la description. Par définition, elle prend du temps. Et le sentiment d'urgence politique chez les militants des nouveaux mouvements écologistes, moi, je le comprends tout à fait. Je veux dire, enfin, c'est le temps de l'extinction. C'est pas pour rien si certains mouvements militants ont pris ce nom. C'est un temps, un horizon d'angoisse vécue qui doit être absolument terrible, terrible à porter. Et donc là, il y a un sentiment d'urgence politique qui d'ailleurs, s'accompagne d'un temps de l'action. Et le temps de l'action politique est par définition un temps court et c'est un temps tactique. Voilà. Si le gouvernement vous parle en grand nombre, eh bien, politiquement, il faut lui répondre en nombre aussi. Mais tout ça, effectivement, a tendance à occulter l'horizon à la fois temporel et littéraire, pourrait-on dire, de la description. C'est ça le drame, je crois. C'est qu'on est au cœur de la contradiction. C'est exactement ce que vous venez de dire. Il faudrait décrire, alors même que ça brûle. Voilà.
Oui, mais il faudrait décrire pour être même plus conscient de ce qui se passe, vous dites. Donc l'urgence, pour vous, implique la description, Marc Janson.
Oui, absolument. Et cette description, elle porte sur les organismes, bien sûr. On vient d'en parler, mais elle porte aussi sur tout ce que cet organisme avait aussi dans les communautés. C'est-à-dire que si on prend les étiquettes qui accompagnent les spécimens d'histoire naturelle, la plupart du temps, on a la description de l'individu, effectivement, de l'être, mais on a aussi tout le cortège d'espèces qui l'accompagnent, le milieu dans lequel il se développe. Et c'est bien sûr les espèces que l'on va perdre, les individus que l'on perd par la destruction, par le feu, mais c'est aussi tous les systèmes dans lesquels ils vivent et qui leur permettent de vivre. Donc cette description, elle doit porter bien sûr sur les individus dans ce qu'ils ont de plus propre, dans leurs traits, dans leur morphologie, dans leur surface et peut-être leurs intérieurs, mais aussi sur ces systèmes qui leur permettent de vivre et qu'ils entretiennent. Donc c'est vraiment une description qui se décline en quelque sorte à différentes échelles pour garder la mémoire de ce que l'on perd. Et pas du tout dans une approche nostalgique ou purement esthétique, mais véritablement fonctionnelle, puisque l'on sait que c'est grâce à ces systèmes...
Il ne faut pas non plus criminaliser la nostalgie, et une approche purement esthétique est peut-être critiquable, mais il ne faut pas non plus que la dimension esthétique soit perdue par l'écologie.
Vous avez tout à fait raison, c'est ce que je m'apprêtais à répondre à Romain Bertrand quand on a fini la question précédente, c'est que peut-être que l'autre excès se retrouve du côté des scientifiques, où on a toujours tendance à ériger le scientifique comme un être absolument rationnel et froid. Or, on sait tous très bien que l'esthétique joue un rôle primordial. J'explique dans le livre comment c'est vraiment une approche esthétique qui m'a sensibilisé au palmier. J'entendais l'autre jour la commissaire d'une exposition sur les méduses au Trocadéro nous dire en toute sincérité qu'avant tout, elle les trouvait belle et que c'est ça qui lui a permis d'aller plus loin. Et on parle de chiffres et de biodiversité et d'espèces, mais effectivement, la dimension esthétique, elle est essentielle. Cette esthétique que porte le vivant, elle est irremplaçable, elle est essentielle et elle est malheureusement peut-être trop souvent aujourd'hui passée pour perte et profit.
Très bien. Bah, écoutez, nous terminerons sur cette belle... C'est bel éloge de la beauté. Merci beaucoup Marc Janson et Romain Bertrand. Alors avant de rappeler le titre de vos livres, je voudrais vous citer un extrait de la préface qu'a donné Frédéric Boyer à sa traduction des Géorgiques. Il a donné ce titre, Le souci de la terre, parce que cette préface entre extraordinairement en résonance avec vos deux livres. Il écrit ceci, pour définir enfin le travail de Virgile, « Vanter la solitude, se retirer pour se distraire avec des chansons de berger à l'ombre des hêtres, se désœuvrer, se désorienter, faire revenir mythes, rêves, anecdotes, faire des listes de tout, des descriptions rapides, célébrer moins le travail lui-même que le souci des choses, des temps, des êtres, des territoires, moins la transformation que l'attention ou le soin à apporter, cura en latin, sollicitude, souci, soin, attention, tourment et amour. Aimer les détails, dit-il un peu plus loin, dresser des listes, étoiles, outils, peuples, greffes, espèces végétales, moins par souci didactique ou scientifique que pour développer, étirer le poème du monde depuis les plus petites choses jusqu'aux plus vastes. Des abeilles aux cyclopes, admirer le spectacle des choses minuscules, propose alors le poète à son protecteur et à son lecteur. C'est tout à fait vous, si j'ose dire. En tout cas, voilà. Donc, votre livre, Marc Janson, est coécrit avec Charlotte Fauve, s'intitule Botaniste. Il est publié chez Grasset. Le vôtre, Romain Bertrand, Le détail du monde, l'art perdu de la destruction de la nature, est paru aux éditions du Seuil. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Quand Notre-Dame brûlait. Mes invités seront Adrien Goetz et Sylvain Tesson. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.